On est dans un moment historique. Vue du Québec, le Festival de cinéma de Florac reprend ses droits du mardi 18 au dimanche 23 avril.
Pas moins de 17 invités cette année.
Réalisateurs,
acteurs,
distributeurs ou encore producteurs.
Et ça se décline au féminin, bien sûr.
Évidemment.
Elle et ils viennent nous partager leur métier, leur passion pour le cinéma québécois.
La plupart des films sont projetés à la Jeunette Verte.
Avec en plus cette année des temps forts dans différents endroits de Florac.
Des soirées et des concerts.
Toute la programmation et les infos pratiques.
Sur cinéma québécois / vue du Québec.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Martas, bienvenue sur le 107 FM. Mais quel plaisir, mais quel bonheur d'être en direct du Festival Vue du Québec sur, en face de la Jeunette Verte. Là, on ne pourrait ne pas être mieux. Alors, on espère qu'on ne va pas se la prendre, celle-là. Hein. Elle arrive tout doucement, mais on va être bien. Arthur et Véro sont à la technique. Merci beaucoup, les amis. Et cette émission, je vais la présenter, la co-animer avec Daniel Racine. Daniel, bonjour.
Bonjour.
Quel plaisir. C'est la première fois qu'on va partager un plateau ensemble et toi, tu as fait pas mal de radio.
Oui, j'ai fait pas mal de radio et surtout, j'ai fait pas mal de radio ici à Radio Bartas. Les premières années du festival, Stéphane doit s'en souvenir, on allait quotidiennement à la radio. Il y avait vraiment une émission qui nous suivait. Donc, très heureux de revenir.
Oh, ça va faire plaisir. Espérons qu'on fera ça l'année prochaine puis l'année d'après.
Il faut.
Et encore, et ouais. Encore. Alors, évidemment, on est en direct. Les plateaux sont un peu chamboulés. On avait tout bien calé, mais c'est un festival. Et c'est ça qui est la force d'un festival, c'est qu'on vit. Nous sommes en plateau avec Stéphane Lafleur. Bonjour Stéphane.
Salut.
Et bienvenue, merci d'être avec nous.
C'est le plus grand des plaisirs.
T'as présenté ton film hier. Alors, on va en parler parce qu'on dirait la planète Mars. Ça s'appelle Viking.
Au Québec, ça s'appelle Viking.
Alors, on va en parler et je te poserai évidemment la question pourquoi. Mais je suis désolé, je suis obligé de le faire parce que j'ai pas compris.
J'ai pas les réponses.
Et puis, évidemment, comme c'est le plateau, nous sommes aussi avec Éric Morin. Éric, bonjour.
Allô.
Et nous sommes Gold. Tu viens de le présenter là, il y a pas très longtemps. Baisse juste un tout petit peu l'enceinte derrière nous, vraiment. Comme ça, ça va le faire. On n'a pas besoin de retour. On s'entend très bien. Et il n'y a pas de problème. Laisse surtout l'enceinte ici. On est en direct. Tout va bien. Comment se passe ce festival pour vous? Commençons par toi, Stéphane. Le film hier a été présenté en première. Ça s'est super bien passé.
Très bien passé. Belle salle. Belle soirée. Content d'être de retour. Apparemment, je suis le premier invité qui revient. À part Daniel, évidemment. Oui, pardon. À part Daniel, évidemment, qui est un abonné maintenant. Mais je suis tellement content d'être de retour ici.
Alors, commençons par la première question. On dirait la planète Mars.
Oui.
Viking.
Oui.
Pourquoi?
Je sais pas.
Et c'est pas toi qui décides?
Ben non, c'est pas moi qui décide.
Comment ça se passe?
Ben, en fait, il y a un distributeur français qui achète le film pour le distribuer en France. Le film va sortir en France au mois de juillet. Et puis, eux, pour plein de raisons, décident que... Parce que c'est un océan de films qui existe, il faut essayer de se démarquer. Ils ont décidé de changer le titre du film, tout simplement. Voilà.
Alors, et sachant que Viking, donc c'est la boîte qui emploie les volontaires qui vont...
Oui, mais c'est aussi le premier lander qui s'est posé sur Mars en 76, en fait. On oublie ça, mais les Américains se sont posés sur Mars, ont mis un objet sur Mars en 1976. Donc, ça date pas d'hier, là, la colonisation de Mars, un pas à la fois.
Est-ce que tu es resté pendant la projection du film hier?
Je suis revenu pour les 20 dernières minutes parce que le film, je l'ai vu une centaine de fois pendant que je le faisais. Je peux plus le voir. Je reviens toujours à peu près 20 minutes avant la fin pour tâter le pouls un peu du public et savoir à qui j'ai affaire avant d'aller répondre aux questions. Et la réaction semblait plutôt bonne.
Oui, les échos étaient vraiment, vraiment excellents. Ouais. Ça a l'air que les gens riaient à bonne place.
Bon.
Ouais.
C'était incroyable. Alors, moi, j'ai assisté à la projection. Hein. Malheureusement, pas à la tienne, puisque nous, on était ici en attente de la prise de direct, Eric. Mais pour le coup, la réaction du public était extraordinaire. Est-ce que ça fait toujours du bien, plaisir, quand les rires arrivent au bon moment, les « ah », les « oh ». Est-ce que quand on écrit un film, la question vaudra aussi pour toi, Eric, mais est-ce que quand on écrit un film, on s'attend en se disant « est-ce que le public va réagir comme ça à ce moment-là?
Ben, on peut jamais prévoir. Effectivement, quand on change de pays, de culture, il y a toujours un petit stress qui embarque là, où on se dit est-ce que ce film-là va passer cette épreuve-là. Quand on a présenté le film pour la première fois, la première fois qu'on a présenté le film, c'était à Toronto. Donc le film est en français avec des sous-titres anglais, et là on se dit est-ce que l'humour va passer dans les sous-titres, est-ce que les gens vont suivre, puis ça c'était bien passé, mais je suis content de savoir que ça riait aux bons endroits hier.
Alors, en tout cas, ça a ri beaucoup hier. Bon, il y a eu beaucoup de réactions, je peux te l'assurer. Eric, j'ai pas vu le film, est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce que derrière, on a ce truc, est-ce qu'on attend les réactions du public en frissonnant un peu, en se disant « Ah, ils ont pas réagi là où je voulais! »
Ben, c'est toujours un défi, justement, surtout que je pense qu'un peu comme Stéphane, c'est pas dans des films basés totalement sur l'humour, donc il y a toutes sortes de niveaux, souvent. Dans Nous sommes Gold, moi, je trouve que c'est un film drôle. Mais pas juste drôle, justement, mais souvent ça arrive pas exactement au bon endroit. Mais Nous sommes d'autres. D'ailleurs, Stéphane a été conseiller à la scénarisation dans les premières versions. Je sais pas si tu t'en souviens.
Je peux juste intervenir. Aujourd'hui, c'est La chasse au Godard d'Abitibi qui a été présentée. Nous sommes Gold, c'est demain. Juste pour corriger.
Ah, pardon!
Oui, Nous sommes Gold, c'est demain.
La chasse au Godard.
Mais oui. Nous sommes Gold est un peu plus drôle, vu qu'on était sur la thématique de l'humour.
Alors, ben justement, parlons-en, parce que quand on dit La chasse au Godard, c'est Jean-Luc Godard qui a débarqué un jour en Abitibi, je vais y arriver.
Oui.
Et voilà, et donc l'idée, c'est vraiment de voir le passage de Jean-Luc Godard en Abitibi.
Ben, en fait, c'est un fait divers qui était très important pour moi, puis j'ai décidé d'en faire une fiction, en fait. Mais c'est ça, j'avais vu ça dans des livres, dans un livre d'histoire, en fait, que Jean-Luc Godard était débarqué à Rouyn-Noranda, mon village natal, en 1968. Et pour moi, c'était la combinaison de trucs que j'aimais, c'est-à-dire ma région, et je la quittais à cette époque-là. J'étais au début de mes études en cinéma quand j'ai eu cette idée-là. Pour moi, c'était deux mondes totalement improbables. Ça part d'une photo, Jean-Luc Godard sur une motoneige, un Olympique Skidoo 1967. Pour moi, ça m'a marqué. J'ai dit, faut que je fasse quelque chose avec ça. Puis ça m'a pris 20 ans à faire le long métrage, mais ça a toujours resté l'idée maîtresse. J'en ai fait plutôt une anecdote, plus qu'une anecdote dans le film, mais plus qu'un point de départ. C'est pas l'histoire est pas documentée sur ce fait-là seulement.
Il faut peut-être situer Rouyn aussi par rapport à Montréal.
Ouais, c'est ça, bien sûr. Rouyn-Noranda, à l'époque, peut-être 8-9 heures en auto de distance. Donc, le fait que Godard se retrouve là en région très éloignée, c'est assez... improbable, disons. Même à Montréal, c'était déjà improbable à cette époque-là.
Puis ce qui est beau de l'Abitibi, en tout cas de ceux qui font du cinéma en Abitibi, c'est que vous tenez à faire du cinéma en Abitibi, que vous montrez que c'est possible d'en faire en région. Toi, est-ce que tu penses être capable de toujours pouvoir poursuivre tes projets en Abitibi, ou peut-être à un moment donné, tu penses venir tourner à Montréal?
Ben, moi, je dirais que ça a été mes thématiques. Je fonctionne par période, puis je pense que j'ai quand même clos ma période inspirationnelle de thématiques qui vont se passer en Abitibi.
Okay.
Moi, je suis tout le temps à peu près chasse au Godard d'Abitibi, 1968. Nous sommes Gold, c'est dans les années 90. Là, je suis rendu début 2000 pour mon prochain et je suis rendu à Montréal. Fait que toujours dans la nostalgie, mais je revisite mes périodes.
OK.
Fait que ça a l'air grandiose comme ça, revisiter ces périodes, mais ouais, non. Mais en même temps, c'est effervescent, c'est foisonnant. Vous allez recevoir Dominique Leclerc sûrement. Pour moi, c'est le cinéaste pur de l'Abitibi, complètement enraciné dans son territoire. Moi, pour moi, l'Abitibi reste quand même une allée-venue encore. T'sais, c'est très inspirant pour moi, mais ça reste pour moi des capsules quand même. Mais on a toujours réussi à tourner là-bas avec des moyens, avec des moyens abitibiens qui ont été formidables. Et ça, je vais toujours prendre ça en considération.
Des moyens abitibiens, ça ressemble aux moyens lausériens, j'ai l'impression un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre le territoire de Lausanne et le territoire d'Abitibi.
Ben, j'ai fait le parallèle hier à la soirée d'ouverture. Je comparais les régions, puis ça reste deux régions très peu densément peuplées, où est-ce que le champ des possibles est quand même très vaste. Mais quand même, pour faire du cinéma, ça prend des moyens. Et la SODEC, qui est l'organisme qui finance au niveau provincial, a beaucoup été contesté à ce niveau-là parce qu'ils n'investissent pas encore assez dans le cinéma en région, mais c'est en train de changer. Moi, je suis médiateur d'un concours qui s'appelle « Cours écrire ton cours » pour le court-métrage, et cette année, c'était 100% région. Donc, les 7 jeunes scénaristes qui étaient finalistes, c'était tout du monde à l'extérieur de Montréal. Et Bon, à savoir, parmi les régions, la ville de Québec est considérée comme une région. Donc, c'est pas juste l'Abitibi. Dès qu'on sort de Montréal, on est en région, là. Ouais.
Alors, je vais vous poser une question à tous les deux. Donc, je me suis planté, effectivement. Nous sommes Gold sera diffusé demain, jeudi 20 avril à 18h. Vos deux films sont en compétition. Voilà, il y a une compétition ici de longs métrages. Voilà.
Ouais, on l'oublie.
Qu'on soit clair. En fait, le but du jeu de cette compétition, c'est quand même très amical. Et puis, je vois vos sourires et la manière dont vous êtes accueillis. Mais est-ce que c'est important de recevoir un prix comme ça dans un festival? Qu'est-ce que ça peut vous apporter à l'avenir?
Moi, j'ai lâché le hockey à 12 ans parce que c'était pas assez compétitif. J'ai dit, je vais faire du cinéma. Voilà, enfin de la vraie compétition, et je suis là pour gagner. Non, mais je pense que c'est tout le temps la reconnaissance de voir ses pairs aussi, puis de les reconnaissances sont très ils font chaud au cœur. Mais je pense que le fait d'être sélectionné dans le festival, d'être accueilli, que le public, c'est sûr que c'est ça. Et de toute façon, à côté de Stéphane Lafleur, je ne suis pas de compétition.
Je sais pas si tu veux réagir à ce qu'il y en a.
Moi, ce que je trouve beau, tu vois, Eric, on se connaît, mais pas tant que ça. Puis là, faut venir à Florac pour passer un peu de temps ensemble puis boire un verre ensemble. Alors, je trouve ça magnifique.
Puis par rapport à la compétition, ça nous a été imposé un peu. C'est que le festival grossit, mais moi, je me suis toujours opposé à ça. Ça va pas dans l'esprit de ce festival-ci. Fait que Stéphane, tu l'avais carrément oublié, puis c'est tant mieux.
Oui, oui, je l'avais oublié.
C'est vraiment pas le but. Le but... Tu sais, c'est comme un, je sais pas, un petit prix de présence, mais il faut pas y accorder trop d'importance à cette compétition-là, honnêtement.
Moi, ce que je trouve beau de ce festival-là, je trouve ça incroyable, tu sais, qu'à Florac, qu'il y ait un festival dédié au cinéma québécois, qui accorde un intérêt à ça chaque année, que les gens viennent et soient curieux. Moi, juste ça, c'est ça le prix, là. Pour vrai, là, tu sais, ça, on dirait que je flatte dans le sens du poil, mais non, mais c'est vraiment, pour moi, c'est ça la beauté de l'affaire, là.
Alors, justement, on parle de visibilité du cinéma québécois en France. Nous, on a la chance ici, grâce à la Nouvelle Dimension et toute l'équipe qui nous amène tous les ans et qui, grâce à la plateforme Mon Cinéma Québécois, promeut le festival et le cinéma québécois ici. Est-ce que vous avez l'impression d'être bien vu en France, ou alors est-ce que c'est compliqué, et pourquoi c'est compliqué?
Écoute, moi, je pense que le cinéma québécois est plus accessible à Florac que chez nous. Nos films sont difficiles à trouver chez nous. C'est absurde. Il y a un gros problème dans le...
Déjà chez vous, alors?
Oui. Chez nous, une fois que le film est sorti, les gens nous demandent toujours, mais où est-ce que je peux le trouver? Puis là, on se retrouve sur les plateformes comme Apple, puis des trucs comme ça, mais il n'y a pas de site qui... Il n'y a pas de lieu où tous nos films sont disponibles. C'est absurde. C'est vraiment absurde. Et je trouve ça cocasse d'arriver à Florac et qu'il y a un club vidéo qui... où tous nos films sont disponibles, même les plus obscurs.
Éric?
Ouais, ben c'est sûr que ouais, il y a pas comme une plateforme. Ben il y en a pour les anciens films, en fait. Éléphant, là, tout ce qui est les films restaurés, les films plus des grands classiques québécois. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir le penchant toutes les sorties québécoises dans un même lieu avec une promotion, un même lieu virtuel, en fait, avec une promotion autour de ça. Ça serait vraiment intéressant.
Mais on a un gros problème de distribution au Québec. Les distributeurs se battent par leur propre plateforme. Il y a personne, il y a pas de cohésion. C'est un peu l'anarchie. Puis on dirait qu'ils vendent des souliers. Ils oublient qu'ils vendent du cinéma.
Ils vendent juste des sets, fait que c'est ça. C'est quelque chose du neuf.
Exact. C'est fou. Non, c'est très critiqué, ça, au Québec. Puis il y a des organismes qui ont tenté de rassembler, mais il y en a qui jouent comme s'ils n'étaient pas financés par l'État aussi. Ça peut être mélangeant. À un moment donné, ils pensent qu'ils sont un organisme privé, puis ils sont financés par le public. Mais c'est vraiment la SODEC, Téléfilm Canada pourrait vraiment mettre leur point à un moment donné et s'arranger. Moi, j'avais entendu une idée géniale, c'est qu'il y ait des cinémas qui appartiennent à Téléfilm et la SODEC, et que ça soit juste des films à l'année financés par nos taxes qui jouent dans ces salles-là. Ouais.
Est-ce que, du coup, la chose la plus dure, c'est la distribution de vos films? Ou est-ce que
Pour moi, c'est le plus gros défi, c'est la distribution. Puis ça te prend un distributeur pour pouvoir être financé. Donc, ça complique encore plus le truc. Parce qu'on a la chance d'avoir un bon système de financement public. En tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord, Eric, mais moi, pour Totalement. Voyager, quand je vais dans les festivals, je parle à des gens de d'autres pays, puis je réalise la chance. À chaque fois, je réalise la chance qu'on a du système qu'on a. Il n'est pas parfait, le système, et il ne peut pas financer tout le monde. On est trop de gens à vouloir faire des films. Mais ça, c'est la même réalité partout. Mais il y a quand même un financement qui soutient la création et toute cette industrie-là.
Éric, je ne sais pas si tu veux rebondir.
Ben, je suis totalement d'accord avec Stéphane. Justement, c'est plus au niveau de la distribution. Souvent, on travaille des années, on a quand même des moyens pour faire nos films, mais souvent, c'est à la sortie, la durée des sorties, la durée en salle. Heureusement, il y a les festivals, là, mais sinon, au niveau financement des films, je pense que ça va quand même. Oui.
Sachant qu'on comprenne bien, en fait, un film, quand vous bouclez un budget, le budget distribution est compris dans le budget du film.
Certaines parties.
Ouais, c'est plus compliqué que ça. Si je ne m'abuse, je crois que les distributeurs reçoivent du financement de leur côté aussi pour aider à la distribution des films.
Mais doit avoir une entente de signer avant la production, avant
oui,
le début
ça,
de la production.
Exact, c'est ça.
Mais c'est qu'on devrait remettre l'artiste au centre des idées de distribution. Parce que trouver son public, c'est ça le combat. Des fois, il y a des films qui sont mal distribués. L'idée de changer de titre, l'idée de faire une affiche qui ressemble pas au film. Des fois, des bandes-annonces aussi. Moi, je pense qu'on va présenter le film de Raphaël Ouellet, Arsenault et fils. Et la bande-annonce, c'est n'importe quoi, là. Puis il n'y a pas eu de droit de regard là-dessus. C'est comme une série télé de TVA. Puis le film est vraiment bon, mais sa bande-annonce te donne pas le goût de voir le film du tout. Mais il n'y a pas eu de droit de regard. Puis je trouve que l'artiste est souvent oublié dans ces processus-là. Et c'est lui qui sait le mieux à qui s'adresse le film.
Alors, pas toujours.
Pas toujours. Ah, t'es pas d'accord? Bon, okay. Je m'en vais. Je quitte ce pays.
Mais toi, Stéphane, tu savais pas le nouveau titre, le titre français de ton film?
Ben, j'ai pas eu peur au brainstorm de ça. Non. Okay. À un moment donné, c'était décidé.
Okay. Et par contre, sur la bande-annonce, t'as eu le.
Ben là, je sais pas si. La bande-annonce chez nous, oui. Celle française, je sais pas si elle existe. Je suis pas sûr qu'elle est faite encore.
J'avoue que j'ai même pas.
Je suis pas sûr qu'elle est faite. Non, mais je suis pas sûr que la bande-annonce. Nous, moi, j'ai approuvé la bande-annonce québécoise. La française, je l'ai pas vue encore.
Mais jusqu'à quel point t'aurais pu la faire modifier, la québécoise?
La québécoise, j'ai fait des commentaires.
OK.
Après ça, il y a un moment donné de lâcher prise. Il y a un moment de lâcher prise où tu dis, ben moi, je trouve qu'on en dit trop, mais si vous pensez que ça va aider, je suis prête à faire ce compromis-là. Tu sais, il faut choisir ses batailles.
Aussi, ouais.
Moi, tu sais, je me bats pour les affiches, je me bats pour... Tu sais, c'est un moment donné... c'est une collaboration aussi. En tout cas, c'est complexe. C'est complexe la distribution.
Oui, et puis sachant qu'un film, je ne sais pas pour vous deux combien c'est de temps de travail, etc. Est-ce qu'on peut avoir toute la maîtrise vraiment sur un film? C'est possible.
Non, puis quand arrive le temps de sortir, on a moins de recul aussi, puis on est un peu fatigué. Alors, c'est bien qu'il y ait des gens qui prennent le flambeau, mais encore faut-il qu'ils le tiennent, ce flambeau-là, tu sais. S'il l'échappe dans la flaque d'eau, ça donne à rien, tu sais.
Ça s'éteint.
Ça s'éteint, voilà.
Éric? Ben, c'est souvent ça, je pense. Des fois, il y a un laisser-aller une fois que le film est sorti. Là. Ben, moi, ça a été ma déception de mon côté par rapport à la distribution de mes films, là, mais c'est... Je ne veux pas casser de sucre sur personne, mais c'est un moment donné, tu te sens un peu, ah, c'est fait, le travail est fait, un petit peu abandonné dans tout ça. Oui,
puis là-dedans, peut-être pas pour protéger les distributeurs, mais il y a un calendrier de sortie. Ouais. Il y a l'envahisseur américain qui nuit beaucoup aux salles. Je vais vous donner un exemple très concret, le film Questspan de Myriam Véraud, qu'on a déjà présenté ici à Florac. Il jouait au cinéma Beaubien depuis plusieurs semaines à guichet fermé. Et les salles étaient pleines, puis ils ont dû le retirer de l'affiche parce que la salle avait été réservée pour un autre film. Je veux dire, c'est problématique. Là, quand tes salles sont trop bookées comme ça, tu peux plus avoir de succès de longue durée. Et après, justement, les gens cherchent les films. C'est en salle que ça se passe encore aujourd'hui, puis il faut se battre pour la salle de cinéma.
Ça, c'est sûr. J'ai eu la chance, avec Radio Barthes, d'avoir plein d'artistes, etc., musiciens, pour le coup, qui disaient il va y avoir un embouteillage, en fait, à un moment, des spectacles qui sont créés, etc. Est-ce que ça a été la même chose pour les films, en fait? Et est-ce que les deux ans qu'on vient de vivre, finalement, ça a été problématique pour vous au niveau de la sortie des films?
Ben oui, il y a des sorties qui ont été retardées. Et donc, ben pendant la pandémie, c'était fou parce qu'il y a des films qui sortaient en salle. Et là, finalement, les mesures augmentaient. Alors, on fermait les salles. Le film qui avait tout bâti sa distribution devait... Il y a un film qui est sorti 3 fois au Québec.
Ouais.
C'est pas des blagues, là. Il est sorti 3... Ils ont été obligés de faire 3 tournées de promo pour rappeler aux gens, oui, le film est en... Mais tu sais, la 3e fois, être à la place du réalisateur, moi, je serais comme, OK, non, mais ça suffit, là, tu sais, c'est un cauchemar rendu là, là, c'est même plus le fun.
Éric, t'as un avis là-dessus ou pas? Hein, t'es pas obligé.
Ah, j'ai plus de commentaires à faire sur la distribution.
C'est très sage.
Alors,
j'en ai déjà trop dit.
Justement, comme on est en direct et que demain passera Nous sommes Gold à 18h.
Très bon film.
Ben merci, ben oui, ben.
C'est super bon
si
film.
Si t'avais pas été là, j'avais 3 débuts. Comme j'aimais ça. Non, mais parce que Stéphane a lu ma première version, moi je me souviens de tout. A lu ma première version, il me dit ouais, il y a comme 3 débuts, puis il avait tellement raison. Puis tu sais, quand on parlait de recul tout à l'heure, tu sais, c'est tout le temps accepté. Puis autant quand on travaille avec un monteur de réécrire le film une différente fois, mais quand en plus en amont, le conseil à la scénarisation, c'est quand même très important justement pour déjà prendre du recul. On sait que c'est long, on sait que c'est long faire un film. Donc toujours avoir les bonnes personnes aux bonnes étapes. Là, puis on sait aussi que c'est un travail d'équipe. Fait que j'ai bien apprécié ce moment.
Et je reposerai évidemment la question aux réalisatrices, réalisateurs qui vont venir juste après nous rejoindre. Si vous aviez un objectif pour vous... définir en tant que réalisateur. Bim.
Adjectif.
Un adjectif, ouais.
Un silence radio. Wow.
Le genre de question qu'il faut préparer sa
oui,
réponse.
C'est ça.
Ouais,
c'est ça,
c'est on a le temps, on s'en fout, on est en direct.
Mais moi, je pourrais parler des conseils que j'ai eus de M. Yves Moreau de Moreau Électrique à Rouyn-Noranda qui nous avait fourni des camions pour le tournage. On parlait d'apport régional, c'est souvent ça, c'est les entreprises régionales qui offrent des services. Fait que je définirais plutôt mon approche en réalisation qui est définie sur celle de M. Moreau de Moreau Électrique qui dit « Travaille fort et sois gentil avec les gens. »
Oui, ben c'est... Voilà. Mais ça, ben oui, c'est ça.
Yvon Moreau.
Oui, ben c'est... Ça, ouais.
mais c'est très drôle parce qu'on parlait avec des Français tantôt ici et ça se passe tellement différemment sur un plateau de tournage québécois et un plateau de tournage français. La hiérarchie est beaucoup plus flexible. Mm-hmm. On peut aller parler aux réalisateurs en France. Il faut que tu passes par les assistants puis te rendre à la personne qui a vraiment le poste clé. C'est quasi mission impossible, c'est en bas de l'échelle. Donc, il y a une plus grande liberté là-dedans déjà sur les plateaux. Puis je pense que tout le monde peut faire son apport aussi d'une certaine façon.
Ben, c'est vraiment une question d'attitude là, de la part de la réalisation. Il y a des, j'ai l'impression qu'il y a des réalisations qui sont...
Mais au Québec, il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment l'attitude de M. Moreau qui est appliquée le plus possible.
Puis malgré ça, ça reste très organisé. Ça reste hiérarchique dans l'organisation. C'est ça qui est le fun. Les gens sont gentils entre eux, mais ça reste...
Le respect des autres.
En tout cas, Stéphane, le film Viking, parce que moi, je trouve que le titre est génial, mais vraiment pour plein de raisons.
Je te donne une adresse courriel en sortant d'ici et t'envoies tes plaintes à qui de droit. Hein?
Il a été diffusé hier, mais il sera sorti en France le 12 juillet. 12 juillet.
Puis excuse-moi, il y a un terrain connu aussi de Stéphane.
Donc c'est exactement ce que j'allais dire.
Samedi.
En terrain connu, samedi, c'est 18h. Ah, ici, bon. Je pense que là, pour le coup, je ne me le prends pas.
Mon deuxième film, donc, qui date d'il y a 10 ans, à peu près. 10-12 ans.
10-12 ans?
Ouais. J'ai oublié l'année.
Je pense qu'à un moment...
12 ans,
j'ai. Quel souvenir tu gardes après 10 ans, 12 ans de...
Moi, je revois pas mes films. Alors, tu sais, j'ai comme des images un peu qui me reviennent, mais l'ensemble du truc, je sais plus trop. Je garde des bons souvenirs de tous mes films parce que le processus a été une belle expérience à chaque fois, en fait.
On parlera d'expérience. C'est justement le deuxième film parce qu'il y a des réalisatrices qui vont nous rejoindre dans un instant. Éric, Nous sommes Gold. Ce sera diffusé demain. Là, pour le coup, je me plante.
Très bon
pas,
film.
À 18h. Très bon.
Avec un seul début.
Merci beaucoup vraiment à tous les deux d'avoir participé à ce plateau. Et on va s'écouter, le deux artistes qui auraient dû commencer le plateau avec nous. J'espère qu'on les a retrouvés ou pas. Je sais pas. On verra. Mais en tout cas, comme dans un film, Ils seront peut-être avec nous tout à l'heure, on verra. Et en tout cas, on continue ce petit plateau assez sympathique, somme toute.
Celui-là, il est différent.
Ah ouais, j'ai pas terminé.
Tu veux goûter un rouge ?
La coop, le casse-mort, la caisse-pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me blanc en beau, je vois le vert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me fasse mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Ouais! Une bonne journée, je y retournais avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Du centre d'achat sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des petits culs en bicycle, des cousines en visite. C'était loin d'un monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va tomber mal, sa rue principale. Depuis
On est bien sur Radio Bartas, on est bien sur le 107 FM en direct du festival Vue du Québec. Et alors là, j'ai un plateau qui continue à être extraordinaire. Alors Catherine Jurkovic, bonjour.
Bonjour.
Ton film est présenté là dans quelques minutes. Là, j'ai pas de montre, mais ça y est, c'est parti.
Oui, ce soir, oui.
Commençons à une demi-heure, trois quarts d'heure de la présentation devant le public. Ça va?
Ça va, oui. Je suis très contente d'être là. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, j'ai présenté le film souvent, donc je suis pas super nerveuse, mais c'est à chaque fois, c'est un public différent, donc je suis curieuse de voir la réception ici à Florac.
Et normalement, le public lausérien est quand même assez accueillant, donc ça devrait bien se passer.
Est assez quoi?
Accueillant,
oui.
Ouais. En tout cas, on va en parler, le film Coyote, hein, ça c'est oui. Maintenant, et on diffusera aussi jeudi à 13h45 Les Routes en février.
Oui.
Ça, ce sera demain. Donc le Coyote, c'est ton deuxième film.
Deuxième long métrage, oui.
On va en parler. Laurence Côté Collins, bonjour.
Bonjour.
Bungalow.
Oui, Bungalow.
C'est samedi à 20h30.
Yes.
T'as allumé tes chaussures?
Oui, toujours. Quand je m'allume, j'allume mes souliers.
Alors, c'est de la radio, j'adore. Mais pourquoi?
Pourquoi? Ben parce que dans le film, il y a plein de lumières qui clignotent. Le LED, c'est l'avenir.
Dans Bungalow aussi. Donc, le LED, c'est l'avenir.
Oui, dans Bungalow, le LED, il y en a mur à mur. Ça nous rappelle les lumières de Times Square, tu trouves pas?
Je suis jamais allé à Times Square.
D'ailleurs, Jonathan dans Bungalow non plus n'est jamais allé à New York et c'est son rêve.
C'est vrai. La transition est toute trouvée. Commençons quand même par ce film Coyote. Alors, je ne sais pas s'il y a une définition de ce film. Je ne sais pas comment commencer cette interview, c'est vrai. Mais c'est un film sociétal, un film où on parle espagnol, canadien, où on est... Il y a tout un mélange de choses qui concernent notre société actuelle. Je sais pas très bien comment l'introduire ce film.
J'accepte plus... Ben, sociétal, ça me dérange pas, mais ça a l'air un peu ennuyant, un peu lourd, peut-être.
Je pense pas
que c'est le cas, en tout cas.
Non, c'est pas ennuyeux. Non, ça, c'est,
non, moi, c'est ça. Écoute, comment je l'ai défini? J'ai dit que c'était un film... Aigre-doux, un film méditatif qui a une âme de drame social. Quand je dis une âme, c'est parce que quand on dit drame social, on s'imagine des approches parfois un petit peu brutes, un peu rêches, un peu documentaires. Puis je pense que moi, j'ai ça dans mes thématiques, mais pas dans mon approche. Je pense que j'ai une approche quand même... Je tente en tout cas d'avoir une approche plus poétique...
C'est exactement ce que...
dans ce qui est possible, dans la mesure du possible. Ouais.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un film très poétique. Je l'ai trouvé vraiment poétique, posé, avec plein de... On passe par plein d'émotions dans ce film, en fait. Et c'est ça qui est magique. Est-ce qu'on sort indemne quand on écrit et quand on réalise ce genre de film?
Est-ce qu'on quoi?
Sort indemne.
Indemne?
Ouais.
Écoute, je pense que... Il y a plusieurs thèmes dans le film. Je pense que c'est un film qui est plus complexe qu'il n'apparaît peut-être à prime abord, parce que comme l'approche cinématographique et la dramaturgie est quand même assez simple dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il essaie de rester toujours proche de l'essence du film, ça peut donner l'impression qu'il y a peut-être un seul thème ou que ça peut que le film peut se réduire facilement, mais il y a vraiment plusieurs thèmes, en fait. Je pense qu'il y a... Il y a le thème du recommencement à n'importe quel âge, il y a le thème de la résilience, il y a le thème de la solidarité, il y a l'amour, beaucoup de choses. Vas-y, Daniel.
Moi, je trouve qu'elle fait un cinéma très humain. Puis, peu importe que ton personnage, sa langue première, ça soit l'espagnol, on se reconnaît dans tes personnages facilement. Puis, j'aimerais te corriger, c'est de l'espagnol et du québécois, du canadien, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, le canadien.
Il ne faut jamais faire cette erreur-là, surtout pas à Florent.
Oui, je sais.
Non, mais l'accent canadien, ça n'existe pas. Oui, exact. Cassé!
Moi, j'accepte avec plaisir.
Ouais, il est à peu près moitié français, moitié espagnol.
Ouais.
Français-québécois.
Non, je suis d'accord. faut me remettre à ma place. Moi, j'accepte avec plaisir.
Je suis là pour ça.
Et c'est surtout aussi... Encore une fois, je ne sais pas comment ne pas spoiler ce qui va se passer. En fait,
on dit divulgâcher.
Divulgâcher, ça... Je suis dans la merde avec toi. Il faudrait qu'on se revoie. Hein.
Oui, tout à fait. Je te donnerai des cours.
et en fait, le truc surtout, c'est que au-delà du fait, c'est cet homme qui est en complète reconstruction va se retrouver avec sa fille, qui est toxicomane, qui va lui confier son fils. En fait, et comment on fait quand on est père déjà pour accepter la toxicomanie, en fait? Pour accepter tout ça en fait, et pour accepter le fait qu'on doive élever un enfant alors qu'on a 55 ans.
Oui.
Ces problématiques là elles sont incroyables, sachant que la toxicomanie elle est incroyable, quoi.
Ouais. J'ai été distraite les derniers mots.
C'est pas grave. Est-ce que les parents peuvent assumer tout le temps le fait que les enfants aient des problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme ou autre?
Écoute, un peu comme disait Daniel, c'est des problèmes, je pense, ou des thèmes qui sont pas liés. Oui, c'est des thèmes universels. Je pense que y a n'importe qui peut se reconnaître dans peut-être pas la toxicomanie, mais un sentiment de peut-être ne pas avoir été un bon père ou avoir comme des regrets ou je pense que c'est un personnage à qui la vie offre par un moyen inattendu et qui lui offre la possibilité de réparer quelque chose qu'il pensait déjà irréparable. Fait que je mettrais pas trop l'accent sur la toxicomanie parce que oui, elle est là. Mais c'est surtout le cheminement du personnage principal, de Camilo, et le fait que la vie lui présente des choses qui peuvent sembler des entraves, des obstacles à son projet. Mais finalement, des fois, les meilleures choses ou les choses les plus marquantes dans notre vie arrivent de façon inattendue et même arrivent comme peut-être étant quelque chose de négatif. Un obstacle qu'on doit surmonter ou qu'on doit embrasser. Donc, je pense que c'est surtout ça. Je voulais montrer un peu qu'on a beau faire des projets dans notre vie, des plans, mais finalement, on ne contrôle rien. On fait du mieux qu'on peut avec ce qui nous est présenté. Et c'est ça. Donc, je pense que la question des grands-parents qui remplacent un parent absent est quand même plus courante qu'on ne le pense et elle n'est pas beaucoup au cinéma. J'en ai autour de moi. C'est plus souvent l'homme que la femme parce que c'est plus rare qu'une femme se déresponsabilise de son enfant, mais ça, j'imagine que ça arrive. Donc, je trouvais ça très beau et très, très touchant, moi, quand je voyais ça, un homme qui est quand même pas jeune, mais qui va remplir un rôle parental et qui va, pour permettre à l'enfant d'avoir ce dont il a besoin, l'affection, la protection dont il a besoin. Il y a quelque chose d'aigre doux. Moi, je suis vraiment une cinéaste de l'aigre doux, là, je pense. Donc, quelque chose d'aigre doux là-dedans.
Adjectif.
Oui, c'est ça, parce que c'est beau, parce qu'il y a une sagesse, il y a une maturité chez le grand-parent, et en même temps, il y a la conscience qu'on ne verra pas l'enfant grandir autant que nos enfants, qu'on va le quitter plus tôt. Donc, c'est ça. Et comme je disais, il y a plusieurs thèmes.
Moi, je dois vous quitter. Parce que Julie Lambert qui m'attend pour le question-réponse, donc je vous laisse, mais on se retrouve très vite.
Merci beaucoup, Daniel, c'était un vrai plaisir. Et puis, reviens faire de la radio.
Oui. Reviens nous corriger, s'il te plaît. Reviens nous corriger.
La question vaut un peu pour toutes les deux, parce que c'est votre deuxième long-métrage, hein, si je ne me trompe pas. Catherine, Les Routes en février, ça sera diffusé jeudi à 13h45, si je ne m'abuse. Hein.
Oui, jeudi étant demain. Oui, demain.
Ouais, on est bon. J'ai peur de... Voilà. Est-ce que c'est plus simple à faire un deuxième film ou finalement, est-ce que les problématiques du premier, elles sont là dans le deuxième?
C'est une bonne question. Je pense que les films, il y a une certaine continuité. Les films se répondent un petit peu entre eux, mais je pense que Le Coyote est un film plus complexe. La dramaturgie est plus complexe. J'ai eu plus de moyens pour le faire. Moi, je suis jamais très, très soucieuse de ce que les autres pensent de ce que je fais. Je fais les choses telles que je les ressens et comme je pense que je fais de mon mieux, je fais ce qui est important pour moi. Donc, pour moi, le deuxième film, c'est juste un film. Je les aborde de la même façon. Cela dit, quand Les Routes en février est sorti, a commencé à tourner en festival, puis a fait sa sortie en salle, j'avais déjà le scénario du Coyote bien avancé. Donc, j'étais déjà, comme maintenant, je suis déjà sur un autre scénario, j'étais déjà un peu ailleurs, puis je pense que c'est important en tant qu'artiste de se projeter ailleurs parce que c'est très dur faire un film, c'est beaucoup de pression, on est très vulnérable, on est exposé à plein d'aléas. Donc, moi, personnellement, c'est comme ça que j'affronte ces expériences-là.
On parlait, hein, et d'ailleurs, Laurence, tu peux réagir aussi, le boucler le budget d'un film. Ça va? Est-ce qu'on se met pas en PLS quand on a écrit le film, qu'il est fait et qu'on se dit « Ok, c'est parti » et qu'il faut boucler le financement en disant voilà, commençons à 2-3 semaines du commencement du tournage. Commençons. Ouais.
Ben commence. Là, il y a plusieurs questions dans ta question. le budget, le boucler, comment on se sent 3 semaines avant de tourner? Premièrement, boucler un budget de film, c'est très compliqué. Puis pas parce que c'est nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du cinéma et il y a de plus en plus de gens qui font du cinéma. Donc, il y a de plus en plus de gens sur la planète. Donc, mathématiquement parlant, il y a plus de créateurs. Et le milieu des arts, c'est un endroit où est-ce que c'est l'enfant pauvre, en fait. Hein? Il y a beaucoup d'argent pour les industries minières, pour les industries privées, pour sauver les banques. Mais dans la culture, des fois, c'est beaucoup plus difficile. D'avoir des fonds. Donc, on est plusieurs artistes à se départir la même tarte. Et la tarte est de plus en plus petite et on est de plus en plus de créateurs. Donc, fait que c'est pas directement relié à nous, mais je pense que c'est dans le domaine des arts. En tout cas, au Québec, c'est comme ça. Donc, boucler un budget, c'est déjà quelque chose de complexe. Et pour répondre à ta deuxième question, à 3 semaines du tournage, peu importe l'argent qu'on a, moi, personnellement, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est être en tournage. Donc, le moment où je me sens le plus vivante dans la vie, c'est quand je tourne, que j'ai de l'argent ou pas. Mes journées de tournage ou les journées de préparation, de création de tournage, c'est mes journées préférées de la vie. Donc, j'ai un réel plaisir à être en prep et en tournage. Donc, puis j'ai dans la vie, je suis personnellement très dysfonctionnelle dans toutes les sphères de ma vie, sauf quand je travaille. Alors, quand je suis au travail, je me sens bien, je me sens dans mes chaussures, je me sens à la bonne place. J'ai confiance en moi quand je suis au travail. Pas dans mes amours, par contre, mais au travail, j'ai confiance en moi.
Catherine, pareil. T'as confiance en toi dès que le tournage commence?
Ben, sans vouloir contredire Laurent, je pense qu'au Québec, on est quand même assez choyé en termes de financement. On est probablement un des lieux où on finance quand même le plus de films par habitant. Donc oui, c'est difficile parce qu'il y a chaque fois plus de gens qui veulent faire des films. Il y a chaque fois plus de bons projets. Je pense que les technologies numériques ont ouvert la porte à beaucoup de créateurs. C'est devenu moins élitiste, faire du long-métrage, faire des films. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui cognent à la porte. Mais on est quand même au Québec dans un système relativement généreux et je dirais relativement juste où on peut se dire qu'un très bon projet a très peu de chances de ne pas voir le jour. Parfois, il faut faire la queue leu-leu pendant plusieurs années pour avoir son financement. Après, la question de boucler le financement, c'est plus un défi du producteur. Donc, nous, en tant que réalisatrice, tout ce qu'on sait, c'est on a le cash, on n'a pas le cash. Puis, effectivement, si on n'en a pas, on va s'ajuster. On va ajuster notre approche. Si on a moins d'argent que ce qu'on voudrait, on va ajuster notre approche. Puis, on va simplifier des choses pour pouvoir faire notre film avec l'argent qu'on a, avec les moyens qu'on a. Mais, moi, je dirais de mon côté, c'est plus une question de quels moyens je dispose et comment j'utilise ces moyens pour faire le meilleur film possible, quel choix je fais, quel sacrifice je fais. Après 2-3 semaines avant le tournage, moi, personnellement, je suis déjà burn-out. Je suis comme, j'ai dépassé, tu sais, le tournage, on n'est même plus dans un état de fatigue, là, pour ma part. On est comme au-delà de la fatigue, on est comme dans une espèce de, d'état second que je sais pas, là, qui doit ressembler à je sais pas trop quoi, mais...
Tu trouves pas que c'est un peu comme de l'adrénaline?
Oui, c'est sûr.
C'est comme de l'adrénaline constante,
oui.
Un peu.
Oui, on est beaucoup sur l'adrénaline. Et en même temps, on a tellement de grandes responsabilités qu'il y a pas, on n'a pas le temps de réfléchir à notre fatigue. Je préfère la préparation et la post-production que le tournage. Personnellement, je trouve que le tournage, c'est quand même très exigeant moralement, psychologiquement. On gère beaucoup d'humains, chacun est différent, chacun a ses richesses, mais ses faiblesses et ses susceptibilités. J'aime tourner, mais je préfère la période avant où on rêve de ce qui est mieux, du mieux qu'on pourrait faire, puis la période d'après où on doit se débrouiller avec ce qu'on a. C'est plus du concret pour le tournage, ça passe tellement... Tout va tellement vite et il faut prendre beaucoup de décisions très vite.
Et alors justement, quand on se retrouve au montage en se disant « bon, bah c'est parti », là, on est dans le montage, vous avez des rushs, on en connaît un bras à la radio parce qu'on a des fois, nous, juste sur les reportages, 4-5 heures de rush et il faut en sortir un reportage de 5 minutes. Vous, je ne sais pas comment ça se passe, mais alors, quand vous vous retrouvez avec... le monteur, la monteuse, je sais pas comment vous travaillez, et vous êtes là et vous dites...
Monteuse
pour toi, pareil...
Moi, c'est un monteur. Je travaille presque toujours avec la même personne en fiction. Excuse-moi.
Non, mais il n'y a pas de souci, mais en tout cas, pour le coup, est-ce que là, vous mettez en PLS en disant le tournage est fini, on ne pourra pas la refaire, et du coup, comment ça se passe au niveau du montage? Ou alors, vous êtes sûr... de vous au moment où ça s'est fait?
Personnellement, j'ai une façon très spéciale parce que, en fait, moi, j'ai comme plusieurs carrières de réalisation. Là, je fais de la télévision beaucoup, je fais du documentaire et je fais des longs-métrages de fiction. Donc, en fiction, j'ai une façon de travailler qui est toujours la même, c'est que mon acolyte de toujours, Jules Saunier, est présent au tournage. Donc, j'ai le monteur avec moi qui est on a un bureau côte à côte et il y a l'ordinateur de montage avec lui. Fait qu'à tous les matins, mon découpage est prévu, mais tout est prévu. Puis je retraverse le découpage avec le monteur et des fois, il me fait réfléchir à dire hey, « il va peut-être nous manquer ça. » Je dis « ah oui, peut-être. Non, ça, je suis sûre de ce que je fais. » Et donc, à chaque jour, sur mes break lunch, mes breaks après la journée, je peux aller dans l'ordinateur puis regarder mes scènes et voir à mesure le film se construire. Puis moi, en fiction, je fais 3 prises, 4 prises. Donc, je sais ce que je veux. J'ai vraiment... C'est pour ça que je disais, je me sens bien quand je suis en tournage parce que les choses, ils roulent. C'est le seul moment de ma vie où ça roule bien. Donc, quand j'arrive en montage après le film, il n'y a pas de surprise parce qu'on a un peu déroché le film. On a regardé nos images à mesure qu'on avançait. Puis, le plan de match, il est clair. Donc, c'est ma façon en fiction. Fait que j'ai pas de surprise rendu en post-prod.
Écoute, t'as pas de surprise. Catherine, pour toi, comment ça se passe?
Mais moi non plus, j'ai pas tellement de surprises, en fait. Je suis assez bien organisée, puis j'ai une vision assez claire de ce que je veux. Je fais pas beaucoup de prises non plus, ce qui déroute parfois les gens avec lesquels je travaille. Ils ont toujours l'air qu'on tourne pas assez. Comme je travaille beaucoup en plan-séquence, une scène, souvent, c'est un plan. Ça les rend très anxieux, surtout parce qu'ils viennent justement de tourner de la télé, puis des affaires plus commerciales, où la logique qui prime, c'est plus on tourne, mieux c'est. Mais si t'as... une vision, une grammaire cinématographique, tu sais ce dont tu as besoin, tu le tournes, ça sert à rien de faire des plans de coupe, des rapprochements, des affaires que tu sais que au montage, ben ça va pas fonctionner puis tu vas pas les utiliser. Donc non, mais j'ai pas ma monteuse au tournage, c'est un rare privilège, mais je lui fais lire le scénario avant pour avoir ses commentaires avant de partir en tournage. Et je fais moi-même un peu ce travail-là, pas après la semaine de la journée de tournage, parce que j'ai quand même une famille, donc il faut que je revienne chez moi puis que j'ai un minimum d'énergie pour ma famille. Mais dans mes journées libres, donc les week-ends, entre guillemets, parce que ça tombe jamais des week-ends, donc les journées libres, je regarde mon matériel et en général, je pense que j'arrive à identifier s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui doit être refait, ce qui est rare, mais sur mes deux films, j'ai refait une scène importante parce que je trouvais qu'elle n'était pas réussie. Et je vois si, par exemple, il y a des transitions qui seraient nécessaires ou des petites choses qu'on pourrait tourner de tout ça. Donc j'ai pas de grosse, j'ai jamais fait un montage non plus de comment on dit ça, un montage où on répare des dommages. Là, c'est toujours des montages créatifs où on a quand même assez de matériel pour faire ce qu'on veut.
Laurence, Bungalow, c'est aussi ton deuxième film. Alors, tu t'es entiché d'une jolie ribambelle d'actrices et d'acteurs.
Alors, oui.
La question, c'est, est-ce que c'est grâce à ton premier film? Est-ce que c'est grâce à ton travail à la télé? Ou est-ce que c'est grâce au scénario?
Je pense que c'est un mélange de tout.
Bon, alors, je t'avoue que j'ai écrit la question un peu dans le sens où je savais un peu peut-être répondre ça, mais...
Mais en fait, y a des gens qui me disent « Ah, il y a des vedettes, tu réussiras pas à les avoir. Les gens, ils se déplaceront pas juste pour un petit rôle. » Puis c'est... Je pense que c'est un préjugé qu'on a de penser... J'ai la misère avec ça, moi, le mot vedette, là. Parce qu'un acteur, à la base, ce que ça veut, c'est tourner. Ça veut jouer. Puis ça veut jouer dans des trucs qui vont l'intéresser. Donc, cette espèce de culture-là de la vedette inatteignable, ça me dérange parce que je pense que les acteurs, c'est des êtres humains qui ont envie d'exister dans des films et à la télé et un peu partout. Donc, j'ai pas la prétention d'être une personne extraordinaire. J'ai juste le courage d'approcher les gens qui me tentent. Puis on pourrait dire que c'est de l'audace un peu aussi, là, parce que, tu vois, dans Bungalow, le méchant, le propriétaire du bar, Jim, Martin Laroche, n'avait plus d'agent parce que lui, il disait « Ah, moi, je tourne plus, je veux plus jouer. » Puis il s'est ouvert un café. Un petit café qui s'appelle Au Petit Bonheur. Et on lui a envoyé le scénario, puis il n'a pas répondu. Puis à un moment donné, je me suis tannée, puis je suis allée dans son café. Je me suis acheté un croissant avec un café, puis là, j'étais en train de payer. Puis j'ai dit « Bonjour Martin, vous avez reçu un scénario? » Il me dit « Oui. » J'ai dit « Bien, c'est mon film. » Il dit « Ah, oh, moi, je ne joue pas au cinéma. » Bien, j'ai dit « Non, non, vous allez jouer dans mon film. » Puis là, il dit « Bien, voyons donc, c'est pas pour moi ce rôle-là. » J'ai dit « Non, non, c'est pour vous, ce rôle-là. Là. C'est vous que je veux dans mon film, puis il n'est pas question que vous me dites non. » Fait que il a fini par dire « Oui. » Puis il est super content. Puis finalement, il a recommencé à jouer, puis il s'est repris un agent. Donc, j'ai pas accepté que l'acteur se retire. Je me suis dit « Non, 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 c'est pas parce que tu tournes pas depuis un bout de temps qu'on t'aime pas. C'est juste les circonstances de la vie. » Fait que, tu sais, je suis allée comme ça. J'ai pas lâché l'os, là. Je suis comme un chien qui mord l'os, puis je le lâche pas.
Non, je pense que tu l'as fait vraiment en mode fais-le avec moi, et si ça te plaît, fais-le. Enfin,
en fait, oui, c'est ça. Dis-moi pas que t'as pas de talent ou que c'est pas pour toi. Non, non, moi, j'y crois, là. J'y crois, puis c'est à toi que j'ai pensé. Puis s'il te plaît, viens vivre l'aventure avec nous. On va avoir du fun, tu sais.
Alors, Bungalow, c'est marqué comédie.
Oui.
Alors,
mais c'est plein de choses, alors, en fait.
En fait, c'est exactement ça. Je me suis dit, non, mais juste, on a l'habitude de classifier les choses.
Ouais.
Et en fait, non, il n'y a pas que de la comédie. En fait.
Non, mais moi, enfin, j'aime pas ça, les cases, là. J'ai bien de la misère avec ça.
En même temps,
ça.
Est-ce que ça ne permet pas au public de s'aiguiller aussi un peu? Je sais pas.
Ben, tu sais, il y a différents tons pour la comédie, de un. Puis Bertrand Blier, qui est un réalisateur français dont qui je suis fan, et ses films sont drôles, mais ça fait pas rire tout le monde, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, la comédie, c'est très variable. Comme, tu sais, il y a toutes sortes de types d'humour. Moi, quand je fais du cinéma, j'aime ça faire des manèges. Donc, parce que moi, à la base, je préfère le théâtre. Si j'étais à 2 heures de la mort et qu'on me disait « Tu vas voir un film ou une pièce de théâtre », j'irais au théâtre. J'aime l'expérience d'être avec des acteurs, d'être avec... Je trouve que le théâtre a quelque chose d'intime. Et j'avais envie d'essayer de proposer un film qui nous fait vivre une expérience de théâtre. C'est-à-dire de se sentir proche des acteurs et dans la mise en scène et dans les émotions. Puis moi, au théâtre, souvent, ça m'arrive de pleurer, de rire. Je vis une cascade d'émotions. Et c'est le pari que j'ai voulu faire avec Bungalow. Donc, c'est un mélange de comédie noire. C'est parfois absurde, parfois étrange. C'est des fois un thriller, des fois c'est un film d'horreur. C'est toutes sortes de choses, mais je voulais vraiment que les gens vivent un crescendo d'émotions. Et ben, pour l'instant, je suis très contente parce que c'est ce que le public semble vivre.
En tout cas, c'est ce qu'on vit. Et puis la musique aussi fait beaucoup, en fait, dans le sens où on n'est plus dans la comédie. Et justement, elle permet d'avoir ces codes de films d'horreur un peu...
Oui, mais souvent, en fait, dans le film, c'est souvent de la musique qu'on dit de façon intellectuelle intradiégétique. Ça veut dire que dans l'histoire, les acteurs sont supposés entendre la musique, comme au bar, quand la musique joue, normalement, ça joue dans le bar. Quand on est dans un party, dans une cuisine, puis qu'il y a de la musique qui joue, la musique sort de la radio. Donc, la musique est souvent intégrée dans l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'on dit intradiégétique. Mais il y a très peu de musique extérieure qui vient habiller le film. Il y en a un peu dans les moments plus thriller ou d'horreur, justement. Mais sinon, la musique, c'est tout du stock qui sort comme de la radio.
Catherine, comment tu bosses la zig dans tes films? Comment elle vient à toi, en fait?
La musique?
Ouais.
J'utilise très peu la musique, en fait. Et à peu près de la même façon que Laurence, je pense, c'est surtout de la musique qui fait partie intradiégétique, qui fait partie de l'histoire. Donc, un personnage qui allume la radio, puis des choses comme ça. Il y a toujours, je pense, un moment dans le film où j'aime faire composer, un moment important dans le film, où j'aime faire composer une musique pour la scène. Mais j'essaie toujours que ce soit une musique qui vient pas comme souligner une émotion, qui est pas là pour appuyer quelque chose qui fait déjà partie, qui est censé déjà faire partie de l'écriture. Donc c'est plus une musique pour nous aider à nous projeter ou à nous libérer d'une certaine façon, et pas nécessairement une musique pour appuyer une émotion. J'utilise pas beaucoup la musique, sinon il y a quelques moments, mais. Je suis pas une grande fan de ça, là.
À quel moment, le film est fini, la question vaut pour toutes les deux, le film est fini. Voilà, vous êtes fiers de ce que vous avez fait. À qui vous le faites voir pour la première fois, en fait? Est-ce que vous avez un...
Ben, en fait, en cours de montage, normalement, on fait des visionnements, c'est-à-dire que... On a toujours besoin d'un regard extérieur et d'un peu de recul. Donc, en général, quand on a un premier montage où il y a des choses qui fonctionnent et d'autres peut-être pas tout à fait, on fait venir des gens, deux ou trois personnes de l'extérieur. Et idéalement, en tout cas, moi, je vais toujours chercher des gens qui n'ont pas lu le scénario, qui savent rien du projet. Et c'est-à-dire qu'ils vont apporter vraiment un regard frais. Donc, il y a tellement d'intervenants dans le processus de post-production d'un film que... C'est pas comme quelque chose qu'on concocte en secret puis après on le montre pour la première fois, parce qu'après il y a la personne qui va faire la conception sonore qui doit le regarder, puis souvent qu'il le regarde avant qu'il soit tout à fait fini pour déjà proposer des idées de son et commencer à travailler sur le son. Fait qu'on a, moi je dirais, quand un film est complètement fini, c'est-à-dire qu'on a une copie maîtresse complète, il y a quand même déjà beaucoup de gens qui ont vu le film, on a quand même eu des retours, on a quand même une idée de comment, des forces et des faiblesses de notre film, de comment il est reçu. Et en général, ben, on doit le montrer aux institutions aussi. Là, les fonds qui ont financé le film demandent à le voir avant qu'il soit fini. Ils demandent à le voir en montage. Souvent, il y a un dernier montant qui vient associer un visionnement en montage. Donc, c'est ça. Je dirais qu'il y a quand même pas mal de gens qui voient le film.
Le cinéma, c'est un art très interventionniste. Tu sais, un sculpteur va sculpter, puis il n'y a personne qui va aller lui donner un avis, puis dire crochis un peu telle affaire, fais ça plus comme ça. Un peintre non plus, un chorégraphe non plus, mais le cinéma, c'est un art de groupe. Hein, ça prend une grosse équipe pour faire un film, ça prend beaucoup de sous pour faire un film, et les bailleurs de fonds ont aussi leur mot à dire. Donc, c'est pour ça que je parle d'art d'intervention, c'est que tout le monde a son mot à dire un peu, puis je pense que comme créateur aussi, c'est notre rôle de croire en notre vision, puis d'être capable de la défendre et d'être capable aussi de lâcher prise sur certains combats, des fois. Donc, moi, personnellement, quand je fais des projections, tests, j'invite toujours des gens que j'estime énormément. Des gens, des réalisateurs, des journalistes, des gens que je connais leur travail et que j'apprécie soit leur œuvre ou leur façon de voir le monde. Puis, je prends beaucoup en considération les commentaires. D'ailleurs, moi, mon film, il s'appelait 2x4. Il s'est toujours appelé 2x4. Même notre matériel promo était commencé, puis tout, c'était 2x4. Et là, alors de la projection test avec des gens que j'aimais beaucoup, un réalisateur que j'admire son travail, a fini notre réunion en disant... Aïe, je pose ça comme ça, là, 2x4, c'est un titre de travail, hein, right? Puis là, j'étais comme, non, c'est le titre du film. Puis là, il fait, ben non, c'est pas bon comme titre. Là, j'étais comme, hey, dis-moi pas ça, là, je veux dire, tout est prêt, là, c'est 2x4. Puis là, ben, ça m'a joué dans la tête, puis on a fait un brainstorm le week-end suivant, puis finalement, le film s'appelle Bungalow, fait qu'on a tout jeté le matériel promo 2x4. Et j'ai fait confiance à un créateur que j'aime pour réfléchir à un nouveau titre. Donc, ça va jusque-là, là, des fois, l'opinion des gens autour de nous.
Alors, tu imagines que si Bungalow se serait appelé Maison?
Tu sais qu'on dit Bungalow.
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 Bung.
Oui, oui. J'ai un peu de taf à faire, ça. Je le ferai avec plaisir. Nous, on dit bungalow.
Mais oui, c'est en fait un bungalow, c'est une maison. C'est très américain, là, c'est très la course à la banlieue, le beau gazon, le parking, la voiture, tout ça, là.
Oui, en tout cas, c'est sûr. Je me suis beaucoup reconnu dans
bungalow.
Le côté bricoleur vachement bien.
Oui, hein, c'est ça.
Je suis un bricoleur.
Faire des rénovations, hein, c'est... Il y a un titre de film qui s'appelle L'Opéra de la Terreur. On pourrait dire que faire des rénovations, c'est l'Opéra de la Terreur.
C'est vrai. Pour finir, imaginons, puisqu'on est à la radio, on est bien, vous avez 2 millions d'euros pour faire un film. Quel serait votre...
Déjà,
votre...
des euros versus l'argent canadien, c'est le double. Fait que c'est comme un budget de 4 millions de piastres.
Yes!
Plus précisément, je pense que c'est un budget de 3,4.
Oui, c'est ça. Un beau 3,4 millions.
C'est trop pointu pour moi. Votre rêve, ce serait quoi si... Allez, on va dire... En tout cas, si vous avez crédit illimité.
Un rêve, qu'est-ce que tu veux dire pour...
Pour réaliser un film, votre rêve...
Je pense
rêve,
que crédit illimité, c'est tellement anxiogène, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar.
C'est vrai? Ah, OK.
D'ailleurs, cet après-midi, on regardait un film, un documentaire sur la liberté, les limites et... je veux dire, il n'y a pas de liberté sans limite et il n'y a pas de limite sans liberté. Donc, je préfère 3,4 millions qu'illimité. Puis je ferai mon prochain film que je suis en train d'écrire. Là. C'est ça que ça prendrait pour le faire dans des bonnes conditions.
Ah oui, moi c'est pareil, j'ai 2 films en écriture, donc je ferais juste prendre cet argent-là pour tourner mes prochains films, puis éviter d'attendre un 3-4 ans de line-up pour le financement. Là. Donc moi, j'aurais le goût de commencer à tourner dans 6 mois, là, je suis prête.
Laurence, ton film Bungalow est diffusé samedi à 20h30 ici à la Jeunette Verte. Catherine, ton film Coyote, c'est diffusé là, dans quelques minutes. On y va. Oui.
Et je présente un deuxième film aussi cette semaine, Écarté.
Écarté.
Oui, qui est mon premier long métrage que j'ai tourné en 2016 en Abitibi, justement. Hein, c'est un spécial Abitibi cette année. Donc, cette semaine aussi, le dimanche 23 avril à 14h, je présente mon film Écarté, qui était mon premier.
C'est quand même complètement.
Excuse-moi, je voulais juste m'assurer de le plugger avant que ça finisse.
Avec grand plaisir. Non, non. C'est Radio Barta, ça a les animateurs qui le méritent. Hein. Merci beaucoup à toutes les deux. Vraiment, c'était un vrai plaisir. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur. Je ne sais pas si tu veux conclure.
Non, je voulais te remercier aussi.
Oui, merci. Puis là, mais moi, je m'en vais voir ton film, là. Catherine. Je m'en vais voir ton film maintenant. J'ai très hâte.
Et okay, c'est pour ça. Coyote, ce sera diffusé là, maintenant. Et Les Routes en février, pour le coup, là, j'ai le deuxième film. C'est demain à 13h45.
Oui.
Voilà. Merci beaucoup. Vraiment,
merci. Merci
deux,
beaucoup.
Vraiment. Du fond du cœur. On fait une pause musicale. Je ne sais pas si on continue le plateau ou pas, on fait une pause musicale, on verra. En tout cas, on écoute Lisa Leblanc. Tiens, tu vois Lisa Leblanc, voilà. Lisa Leblanc, tu l'as, hein, Lisa Leblanc. Mais Lisa Leblanc, mais pas les colocs. Hein. Lisa Leblanc, c'est tout bon. Merci Hélène.
Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je dis des livres, je garde la TV, puis des films en jogging. Tellement plus rien. Je me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique, je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. marchand, il y a une crête sur le cœur. Puis c'est toi le pauvre qui va payer pour. Il y en a quand pas de façon, quand pas de tact, puis quand pas de face. Tout est beau jusqu'il y a un innocent, puis le rainbow, toutes les autres. Qu'est-ce que tu fais ça pour? Qu'est-ce que tu fais ça pour? Veux-tu me dire? Veux-tu me dire pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ça pour? Qu'est-ce que tu fais ça pour? Veux-tu me dire? Veux-tu me dire? Ben non! Ben voyons donc! Ben non! T'es pas sérieux? Ben non! Elle a pas fait ça! Ben non! Qu'est-ce qui fait ça? Spécial pour sortir le pire du monde. Chacun défend tes plans. Ce que tu fais là, tu prends une débarbouillette puis tu laves la bouche avec du savon.
C'est la fin de ce plateau Place au cinéma avec Le Coyote de Catherine Jankovic. Merci beaucoup à Daniel pour la co-animation. Merci beaucoup à Arthur Evero qui était à la tech. Merci beaucoup à toi Léo qui débarque dans la radio là tout doucement. Ça va être trop cool. Merci beaucoup à Yann pour les moyens régie. Merci beaucoup à Guillaume et à toute l'équipe de la Nouvelle Dimension pour nous avoir permis de faire ce plateau. Le festival continue et toutes les infos, la prog, le cinéma québécois / Vue du Québec. Merci à toutes et tous. Merci à tous les artistes de nous avoir suivis. Merci à tout le public d'être là en nombre pour ce festival. Vu du Québec, c'est absolument génial que la fête continue. On se quitte avec la petite virgule tiens, qu'on a faite pour s'amuser un peu et pour annoncer tout ça. À très vite, restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. Ciao.
On est dans un moment historique.
Vue du Québec, le festival de cinéma de Florac reprend ses droits du mardi 18 au dimanche 23 avril.
Pas moins de 17 invités cette année.
Réalisateurs,
acteurs,
distributeurs ou encore producteurs.
Et ça se décline au féminin, bien sûr.
Évidemment.
Elle et ils viennent nous partager leur métier, leur passion pour le cinéma québécois.
La plupart des films sont projetés à la Jeunette Verte.
Avec en plus cette année des temps forts dans différents endroits de Florac.
Des soirées et des concerts.
Toute la programmation et les infos pratiques.
Sur cinéma québécois / Vue du Québec.
Possibilité de tout, là, oui.
Let's go. que c'est parce qu'enfermé dans un toit et demi, un champ de l'Éden, ça peut ressembler au paradis. C'est pour que je fasse un crash pas loin d'où j'ai grandi. Yeah.